Bruno David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes naturaliste, paléontologue et biologiste, président du Muséum national d'histoire naturelle, et vous publiez Le jour où j'ai compris, un essai qui est le récit de votre prise de conscience environnementale.
Oui, c'est exactement ça. Alors, ça n'aurait pas dû s'appeler le jour où j'ai compris, puisqu'en fait, il y a plusieurs jours où j'ai compris. Ça s'est fait progressivement, depuis ma petite enfance jusqu'à un âge adulte, où finalement, là, j'ai vraiment. Toutes les pièces se sont assemblées, le puzzle s'est assemblé, comme je dis, et la prise de conscience a été totale.
Il a fallu une vraie réflexion pour arriver à ça?
Alors, c'est pas une réflexion à proprement parler. Disons que dès l'enfance, on peut pas parler de réflexion. C'est une sensibilisation à des sujets environnementaux. Donc, d'abord, la pollution quand j'étais vraiment jeune enfant. Et puis après, d'autres sujets sont arrivés jusqu'au changement climatique qui est arrivé plus tardivement parce qu'il n'était pas ressenti auparavant. On pouvait pas le ressentir auparavant. Il faisait pas encore suffisamment chaud pour qu'on le ressente. Et puis, à un moment donné, il y a une cristallisation qui se met en place et bon, on comprend, mais Il n'y a pas de jour absolu où d'un coup on se met à tout comprendre.
Vous le dites bien, la première prise de conscience de cet environnement, c'est la pollution. Vous décrivez notamment la façon dont les habitants vont discrètement nourrir les poissons en jetant le contenu d'une poubelle dans la rivière d'à côté. À ce moment-là, il n'y a pas de collecte d'ordures et la poubelle, c'est pas vraiment les poubelles qu'on a maintenant, quoi. Il n'y a pas de plastique dedans.
Non, alors ça, c'est vraiment un souvenir d'enfance, hein. J'étais vraiment tout jeune enfant. J'étais avec mon grand-père, mes grands-parents, et avec mon grand-père, un de mes plaisirs quand même, c'était la nuit, de sortir de la maison et d'aller jeter la poubelle par-dessus le parapet du pont, et donc jeter la poubelle dans la Loire, dans le département de la Haute-Loire, là où la Loire est encore une relativement petite rivière. Et tout le village, plus ou moins, faisait ça. Simplement, il n'y avait pas de ramassage des ordures. Mais les ordures en question, c'était pas forcément d'abord tous les jours. Et en plus, c'était quelques épluchures et quelques os de côtelettes de mouton emballés dans du papier journal. Et la Loire n'était pas envahie d'ordures. Il y avait zéro plastique. Les boîtes de conserve, on les jetait pas. Et de toute façon, il y en avait très, très peu. Donc, c'était une pollution très relative dans un monde qui était assez différent de celui d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer en train de faire la même chose. En tout cas, je ne me l'imagine pas une seconde.
Les pollutions qui sont vraiment marquantes, ce sont les marées noires successives.
Oui, parce que quand on est enfant, et là j'étais à la maison, il n'y avait pas de télévision, mais il y avait quand même des magazines, il y avait la radio, on entend parler de ces oiseaux recouverts de mazout, qui sont en train de mourir. Enfin, c'est extrêmement frappant, ça frappe l'imagination. Donc on y est vraiment sensible. Et puis il y a une autre chose à laquelle j'ai été très sensible dans mon enfance, c'est l'odeur de la pollution sur la région lyonnaise, puisque j'étais en région lyonnaise, et au sud de Lyon, il y a ce qu'on appelle un couloir de la chimie, et quand c'est le vent du sud, il y a les odeurs qui remontent sur la ville. Et j'ai encore cette odeur dans le nez, mais vraiment. Et c'est vraiment une sorte de Madeleine de Proust, un petit peu chimique quand même, mais ça revient vraiment à ça, c'est-à-dire que si vous m'alignez 5 ou 6 odeurs sur la table, là, dans ce studio, je vous reconnais l'odeur de la pollution de l'air à Lyon dans les années 60-70.
Alors il y a cette sensibilité, et puis en même temps, vous le dites, à l'époque, les hivers sont très froids. On ne sent pas de réchauffement ou de changement climatique.
Non, il n'y a pas de ressenti possible, on ne peut pas le sentir physiquement, d'autant que les 2 décennies de mon enfance et de mon adolescence, du début de mon adolescence, les décennies 1960-1970, sont les plus froides mesurées depuis la décennie 1910. On est plus froid que les années 20, que les années 30, que les années 40, que les années 50. Donc on ne peut pas ressentir le réchauffement climatique. Il y a quelques esprits très avancés qui avaient dit les mécanismes du changement climatique sont sans doute en route, même si on ne le ressent pas. Et puis après, pour le ressentir, il a fallu attendre les années 90 pratiquement, pour vraiment le ressentir physiquement, et les années 2000, la fameuse canicule de 2003. Mais sinon, avant, ce n'était pas possible.
Et les années 90, c'est également à partir de ce moment-là, qu'on commence à évoquer la biodiversité.
Oui, alors les sujets de biodiversité étaient latents, c'est-à-dire que on nous parlait déjà de la disparition des éléphants, des rhinocéros, enfin des déclins, des chasses trop importantes qu'il y avait sur la grande faune africaine, par exemple. On en parlait un peu, mais c'est devenu vraiment prégnant dans les années 90-2000, là encore une fois. Alors ma prise de conscience personnelle a été relativement précoce par rapport à la moyenne de la population, parce que j'étais dans un milieu naturaliste, parce que moi-même je travaillais dans le domaine de l'histoire naturelle, ce qui fait que j'ai eu 10 ou 15 ans d'avance sur la moyenne de mes concitoyens. Mais sans m'attribuer un mérite particulier, c'est simplement les circonstances qui ont fait que j'ai pu avoir cette prise de conscience un petit peu plus précoce.
C'est ça, avec une famille qui observe les oiseaux, les insectes, avec vous-même qui êtes sensibilisé à la question. Si vous dites que vous avez 10-15 ans d'avance sur les autres, même si on a bien compris que ce n'est pas le jour où vous avez compris, c'est quand même une certitude, quoi, dans les années 90 ou avant ?
Oui, au début des années 90. Et même pour le changement climatique, alors même que le GIEC vient d'être créé, que dans son premier rapport, il est très prudent et il dit... On observe un début de tendance au réchauffement et il se pourrait que ça soit dû aux activités humaines, mais cela reste à démontrer. Et à ce moment-là, la famille fait l'acquisition d'une maison un peu ancienne, construite dans les années 1930. Et mon souci, c'est d'isoler la maison contre la chaleur, pas contre le froid, pourtant on est en Bourgogne. C'est de l'isoler contre la chaleur et je suis presque obsédé par ça, en me disant il va y avoir un réchauffement, il faut que j'isole la maison contre la chaleur. Et on est au milieu des années 90.
Le troisième rapport du GIEC est publié en 2001, le quatrième en 2007. Bon, là, du point de vue scientifique, il n'y a plus aucun doute sur le changement climatique et le rôle joué par l'homme dans ce changement. Pour le déclic du grand public, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est la canicule de 2003 ou c'est peut-être les incendies de l'été dernier. Le grand public marche par à-coup, lui.
Oui, alors pour le changement climatique, on marche par à-coup parce qu'on est frappé par des événements extrêmes. Là, il y a là quand même le dôme de chaleur qui s'installe sur l'Europe du Sud. Ça aura marqué, je pense, les populations d'Europe du Sud. Donc on marche comme ça, par à coup. La canicule de 2003 a quand même fait pas mal de morts en France. Et ça date de 20 ans, mais on s'en souvient tous. Donc ça fonctionne comme ça. Pour la biodiversité, c'est plus difficile parce que c'est plus insidieux. Ce sont des déclins progressifs d'abondance. On ne les observe pas d'un jour à l'autre. Les espèces sont toujours présentes. Mais il y a deux fois moins de moineaux dans Paris qu'il y en avait il y a 15 ans, et il y a toujours des moineaux. Donc c'est difficile de s'en rendre compte.
Vous ne prenez pas l'avion pour vos loisirs, vous consommez avec modération, vous ne ménagez pas votre peine pour partager votre connaissance du vivant. Est-ce qu'avec tout cela, ça vous irrite que les jeunes, qu'on appelle les millennials, vous accusent d'être responsables de tous les maux de la planète ?
Alors on n'est pas si responsable que ça, parce que... Bon, on est aussi victime, entre guillemets, enfin on vit dans son époque, on vit dans le moment de son temps avec l'influence qu'on a à ce moment-là. Comme je le disais, dans mon enfance et mon adolescence, le réchauffement climatique, ça n'existait pas. C'était imperceptible, il n'y en avait pas de toute façon, c'était même l'inverse, c'était un refroidissement. Donc on ne peut pas. Alors après, jusqu'à quel point est-ce qu'on a été vertueux ou pas vertueux ? On dit souvent les 30 glorieuses, ça a été une frénésie de consommation. C'est sûr que si on compare aux années 40 et aux années de guerre, c'était une frénésie de consommation. Mais c'était une consommation d'équipement. Je le rappelle aussi, mes grands-parents, ils n'avaient pas de réfrigérateur, ils n'avaient pas de machine à laver. Et donc ils essayaient de s'équiper. Mes parents s'équipaient. Aujourd'hui, on est dans la surconsommation. On est dans une consommation qui est extrêmement violente, entre guillemets, où on a des piles de t-shirts dans son armoire, où on s'achète des vêtements à foison, où les magasins laissent les portes ouvertes. On est dans une consommation frénétique, sans oublier les réseaux sociaux en général, tous les réseaux qui consomment 12% de l'électricité française. Et ça, évidemment, ça n'existait pas. Alors ça aurait existé quand j'avais 17 ans, je les aurais utilisés, je ne suis pas plus vertueux que ça. Mais ça n'existait pas, donc on ne les utilisait pas. Et je pense qu'il faut arrêter de s'invectiver entre générations, ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer les choses. On a un problème qui est grave, qui est devant nous, et on a intérêt à y travailler ensemble plutôt que séparément.
Est-ce que vous pensez qu'on peut évoluer, limiter cette surconsommation ?
Je pense que... Avant chaque acte d'achat, essayons de prendre l'habitude de se poser de la question si cet acte est nécessaire, pas nécessaire. Il peut être nécessaire pour des raisons physiques, vous pouvez avoir besoin de vous acheter une chemise de plus parce que les précédentes sont usées, simplement. Il peut être nécessaire pour des raisons psychologiques, vous en avez une envie folle, et je le respecte aussi totalement, mais simplement prenons l'habitude de nous poser des questions et peut-être que ça nous amènera à plus de sobriété. On parle beaucoup de sobriété, je pense qu'on peut avoir une sobriété heureuse sans se mettre la tête dans le sable et sans arrêter de respirer.
Bruno David, merci. Je rappelle le titre de votre livre « Le jour où j'ai compris » paru chez Grasset.